Un caillou dans la chaussure. Bonjour, dernière émission avant les grandes vacances avec l'équipe au grand complet. Marie-Dominique Russis, Nathalie Guimard, Florence Michel et Sébastien Gély. Nous voilà donc ensemble pendant une heure avec un sommaire en lien avec l'actualité et la saison. Puisque l'été est aussi synonyme de festival, en troisième partie d'émission, Florence Michel a picoré de bonnes idées pour se détendre, attiser notre curiosité, prendre le temps et plus particulièrement au théâtre. Florence ?
Oui, je vous emmènerai au Festival d'Avignon, au Festival Théâtre Enfant, au petit sous-titre Alléchant, spectacle pour moi, ma petite sœur et mes parents, qui a lieu du 9 au 25 juillet, non-stop ou quasiment, au Théâtre Montclar, à Avignon donc.
Festival toujours sur les sentiers au Festival international du documentaire, c'est la programmation proposée par Photokino qui va être mise en relief par Nathalie Guimard. Regard d'enfance dans des films de fiction ou des documentaires singuliers. Nathalie ?
Oui, les sentiers ou comment, même l'été, on peut aller se balader sur des terres inconnues ou connues. Dans les salles obscures.
Mais avant l'été, pour les parents curieux, ceux qui rêvent d'être une mouche pour savoir ce qui se passe dans la classe, un extrait de La rencontre avec Mario Ramos, auteur-illustrateur, dont les livres les plus connus s'intitulent C'est moi le plus fort et C'est moi le plus beau. Accueilli donc Mario Ramos par les élèves de Friedland qui ont participé au prix du livre Jeunesse Marseille. Mario Ramos est auteur d'albums pour la jeunesse, tous édités chez Pastel, la maison d'édition belge de l'École des loisirs à Bruxelles. Les livres de Mario Ramos ont les deux pieds dans l'enfance et la tête des personnages peuvent volontiers tricoter avec des délicates questions de la différence, du mal-être ou la peur du noir. Avec humour, Mario Ramos utilise beaucoup les animaux, le loup. Très souvent, ce qui facilite des parallèles et des critiques du monde adulte. Mais si les illustrations semblent être faites à hauteur d'enfant, le trait simple est efficace, au point de révéler plusieurs niveaux de lecture, car Mario Ramos tient beaucoup à toucher en même temps les grands, les adultes, les premiers lecteurs de ses livres, puis, entre tendresse et ironie, Mario Ramos livre des petites leçons de vie contre l'invasion de la télévision, par exemple, contre l'intolérance, il taquine volontiers la royauté et le pouvoir absurde. Alors prenons l'exemple du livre « C'est moi le plus fort ». Le loup, manifestement, a besoin de se rassurer. Alors au cours de sa promenade en forêt, il demande à chaque personnage qu'il rencontre s'il est bien le plus fort. Les personnages sont d'ailleurs aussi des clins d'œil aux classiques de la littérature jeunesse, comme le petit chaperon rouge, par exemple. Donc, dans sa promenade, au fur et à mesure de ses rencontres, il se rassure, bien entendu, c'est bien lui le plus fort, jusqu'à ce qu'un crapaud ose prétendre le contraire. Alors, finalement, le loup est-il vraiment le plus fort ? A-t-il trouvé plus fort que lui ? Ce titre a fait école. Il a eu beaucoup de succès et dans la classe de CE1 de l'école Friedland, Félix et Romane nous livrent très rapidement une lecture du livre écrit par les élèves de la classe à la manière de « C'est moi le plus fort », un livre offert donc à Mario Ramos lors de sa visite qui s'intitule « C'est moi le plus intelligent ».
Ah ah ah, je vais tous les interroger pour savoir ce qu'ils pensent de moi. Je vais leur demander qui est le plus intelligent. Eh, petit idiot, tu n'as pas compris la leçon. Tu t'éloignes toujours pour cueillir des fleurs. Alors, qui est le plus intelligent ? C'est vous, monseigneur. Salut, les trois tire-bouchons et les deux feignants. Mon souffle vous a épaté ? Oui, répondent les cochons. Qui est donc le plus intelligent ? C'est vous. Oh, petit flocon de neige qui mange les pommes empoisonnées. Dis-moi, qui est le plus intelligent ? C'est vous, le loup. Et les nains de jardin, vous laissez toujours Blanche-Neige toute seule, ce n'est pas mal, hein.
Bonjour Pierre, ton fil ne marche plus ?
Non, mais je vais le réparer.
mais tu n'as toujours pas tué le loup. Alors, qui est le plus intelligent ? D'accord, c'est vous. Oh, merci. Salut, petit minuscule, tes parents ne sont pas là ? Non, très bien, dis-moi, qui est le plus intelligent ? C'est moi. Quoi, petit minuscule ? Alors, dites-moi combien font 1 plus 1 ? Demande le petit dragon. 6, répond le loup. Imbécile, vous vous êtes trompé, vous n'êtes pas vraiment intelligent.
C'était vendredi dernier, Mario Ramos était à Marseille pour rencontrer les élèves de la classe de CE1 de l'école Friedland, une des 56 classes qui ont participé au prix du livre Jeunesse Marseille, dont l'édition 2008 vient de se terminer, justement avec des rencontres dans les classes avec les écrivains. Donc cette classe, c'est la classe qui a défendu le titre « Loulou y es-tu » de Mario Ramos devant des jurys élèves et qui a fait gagner ce titre. La classe qui a su donner aux autres membres du jury enfants l'envie de le lire et qui par conséquent se voit donc récompensée par la venue de l'auteur. Alors nous nous sommes immiscés au pied de l'estrade, dans la salle de classe, pour assister à la rencontre pendant laquelle, d'un livre à l'autre, Mario Ramos a livré ses petits secrets de fabrication, puis il s'est volontiers prêté au jeu des questions des enfants, leur a fait la démonstration d'un dessin en direct, parce que le dessin avait déjà pris toute sa place dès son enfance. Mario Ramos encourage donc les élèves à partager sa passion. En cette fin d'année scolaire, saluons au passage tous les enseignants qui ont oublié d'être à court d'idées pour mettre en place des projets qui incitent à la lecture. Chapeau donc à leur motivation et à leur savoir-faire.
Vous écoutez Radio Grenouille sur 88.8, un caillou dans la chaussure.
Vous aviez des questions, il y a des choses que vous vouliez savoir. Je vais mettre une feuille pour dessiner. Vous avez un gros marqueur ? Je mets au-dessus, hein, ça va aller. Les dents sont beaux. Alors, il y en a qui ont des questions, je vois. Il y a des choses auxquelles je n'ai pas encore répondu. Bienvenue. Voilà. Je mets une feuille pour faire un dessin. Comme ça, vous allez voir en direct comment on fait un dessin. Alors, tu veux poser une question ? Par quoi ? Alors, qu'est-ce qui m'inspire pour faire les albums pour enfants ? En fait, les idées, ça vient un peu de tout ce qui se passe autour de toi, de ce que tu as vécu avant, de ce que tu remarques autour de toi, des livres que tu lis. Il y a beaucoup d'inspirations qui viennent des contes de l'enfance qu'on m'a raconté quand j'étais petit. C'est pour ça que je réutilise le loup et les trois petits cochons, le loup et le chaperon rouge, tu vois ? Les idées, c'est quelque chose que tu construis. Tu prends une idée là, tu les mets ensemble et tu rajoutes des choses qu'il y a dans ta tête, puis tu construis le livre. Faire un livre, ça met très longtemps, ça met 6 mois. Je fais 2 livres par an, maximum, d'accord ? Là, je vais faire un dessin rapide devant vous, mais quand je fais un livre, je peux travailler très longtemps un dessin. Il ne faut pas hésiter à recommencer. Quand vous écrivez aussi, pour avoir quelque chose dont vous êtes content, vous ne devez pas hésiter à recommencer. Tous les artistes travaillent comme ça. Oui ? Non. Maman, c'est... Vous le connaissez, ce livre-là ?
Oui, oui.
Alors, vous savez pourquoi le petit garçon écrit « Maman » ?
Oui, parce qu'il y a des fins.
Non.
Non, parce qu'il y a une araignée dans sa chambre.
Ah, c'est parce qu'il y a une araignée dans sa chambre. Vous avez vu l'araignée ?
Non.
Parce que parfois on ne la voit pas l'araignée dans sa chambre. Elle se trouve au plafond. C'est de ça qu'il a très très peur. Alors je trouvais amusant de faire crier un petit garçon maman. Pendant tout le livre on croit qu'il a peur des animaux, je le fais exprès. Et à la fin en fait il a simplement peur d'une toute petite araignée. Souvent dans la vie c'est comme ça. Il y a plein de problèmes autour de vous, mais il y a un petit problème qui vous obsède beaucoup et auquel vous n'arrêtez pas de penser. C'est un peu ce jeu-là. Je trouvais amusant de faire un livre qui s'appelait Maman. Oui ? Tu voudrais bien savoir dessiner ? Ah, tu sais très bien dessiner, mais ça, c'est pas une question, tu vois. Je peux pas répondre. Oui, mademoiselle ?
Pourquoi faites-vous des livres pour les enfants ?
Parce que j'aime bien raconter des histoires en dessin. Et les histoires en dessin, ça s'appelle des albums pour enfants. Mais c'est pas seulement pour les enfants, il y a toujours différents niveaux de lecture. Je ne sais pas si vous comprenez ça, donc il y a des choses Vous voyez, l'histoire du petit qui est mal dans le monde qui l'entoure, c'est quelque chose qui parle aux adultes aussi. Et les albums pour enfants sont lus par des adultes aux enfants, donc c'est lu par des gens plus grands aussi. Donc il y a différents niveaux de lecture. Quand je te montre aussi Un monde de cochons, par exemple, le livre Un monde de cochons, tu vois, c'est un titre qui évoque, qui fait rire les enfants et qui fait rire les adultes aussi. Je pense toujours à parler. Puis, quand je fais l'album, il m'amuse, moi. Je ne suis pas un enfant, hein. Je suis plus un enfant depuis longtemps. Mais je l'ai été, comme toutes les grandes personnes ont été des enfants. Oui ? Bien sûr, je suis en train de travailler sur un nouveau livre, mais je ne sais pas encore vous dire qu'est-ce que ce sera parce que j'hésite entre plusieurs projets. Et il y en a un qui est terminé qui va sortir à la rentrée, qui s'appellera Le loup qui voulait être un mouton.
Ah ouais, je l'ai déjà lu.
Non, il va sortir à la rentrée, tu vois. Oui. Alors, qu'est-ce que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant? J'aimais beaucoup les bandes dessinées de Tintin et Milou. J'aimais beaucoup courir dehors dans les bois. Chez ma grand-mère habitait une rue. Au bout de la rue, c'était le bois qui commençait. Et j'allais dans les bois faire des cabanes. Et je crois qu'il y a beaucoup de forêts dans mes histoires. Ça revient très souvent. J'aimais beaucoup les films de Charlie Chaplin, Charlot, le personnage de Charlot. C'est toujours plein d'imagination. C'est très drôle. Ça vous fait rire et en même temps, ça vous fait beaucoup réfléchir sur la vie. Ça vous dit des choses très importantes sur la vie. Et puis, j'aimais bien dessiner. J'ai commencé, en fait, quand j'étais petit, j'avais beaucoup de chance et qu'à la maison, on n'avait pas la télévision. Donc, quand je rentrais après l'école, que j'avais fini mes devoirs, je pouvais faire tout ce que je voulais. J'avais beaucoup de temps. Vous imaginez? Si vous éteignez la télévision, vous allez avoir beaucoup de temps pour faire des tas de choses. Je prenais des cahiers et dans mes cahiers, j'inventais des histoires. Avec le dessin. Ce qui m'amuse avec le dessin, c'est ce que je vais faire là d'ailleurs. J'invente une histoire. Je vais vous faire un loup. Dans l'autre classe, j'ai fait un loup aussi. Je vais vous faire un autre loup. Pas le même loup que dans l'autre classe. Puisque j'imagine que vous allez aller voir le dessin dans l'autre classe. Je vais vous dessiner un loup. Ce que vous aimez bien, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus haut. Mais un loup qui ne fait pas la même chose que dans les livres. Et après ça, vous pourrez inventer une autre histoire avec le loup. Regardez. Ça va être la surprise. Qu'est-ce qui fait le loup? Donc d'habitude, quand je fais les albums, je dessine à ma table à dessin. Je suis assis, comme vous, et je dessine sur des feuilles de papier. Vous voyez le loup apparaître. Un sympathique personnage, ce loup. Qu'est-ce que vous savez ? Oui, ça ressemble à ça, mais c'est autre chose. Je vais faire autre chose.
C'est le loup. C'est
où que tu vois,
il a l'air gentil.
Oui, il a l'air gentil. On peut faire c'est moi le plus gentil.
C'est moi le plus gentil.
Alors là, il est en train de faire la même chose que dans la classe à côté. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait dans la classe à côté? Il allait à la piscine. Ils vous montreront le dessin. C'est très amusant, c'est le loup qui va à la piscine. Mais ici, je vais faire autre chose. Regardez bien. Vous voyez le dessin apparaître, c'est amusant. Hein? Il y a un côté magique dans le dessin. Parce que c'est en train d'apparaître. Moi, quand j'étais petit, j'avais une cousine qui était plus grande que moi. Elle dessinait et j'aimais bien la regarder dessiner. Voir le dessin apparaître. Alors, je continue mon dessin. C'est un loup qui vous chante une petite chanson. La chanson du loup. Vous voyez un petit peu comment on dessine? Mais là, c'est parce que j'ai dessiné le loup très souvent, hein, donc j'ai l'habitude de le dessiner. Je fais des petites notes de musique. Comme ça, vous entendez la musique. Voilà. Il faut inventer. Oui, ça tombe bien. Et vous avez le public du loup. Et vous comprenez, ce qui est amusant, c'est d'inventer tout ce qu'on veut avec le dessin. Vous pouvez faire d'autres choses, hein. Si vous aimez mieux dessiner les hippopotames, vous dessinez des hippopotames. Vous voyez le petit public, un petit cochon qui aime bien la musique. Et là, je fais un deuxième petit cochon qui aime bien aussi la musique. Là, je dessine vite pour vous, sinon vous allez vous ennuyer. Mais quand je fais un livre, je vous dis, ça met beaucoup plus longtemps. Hein. Et puis, c'est mon métier, comme tu dis. Et j'invente aussi l'histoire. Hein. C'est très important dans un livre, ce qu'on raconte, c'est le plus important. Oui. Les dessins aussi racontent l'histoire. Voilà un dessin, une signature et la date d'aujourd'hui. Voilà, vous pouvez inventer l'histoire du loup qui se promène dans la forêt avec sa guitare, qui chante des chansons. Là, il rencontre les trois petits cochons, mais il pourrait rencontrer le petit chaperon rouge, il pourrait rencontrer Blanche-Neige et lui chanter une jolie chanson. Peut-être qu'elle serait séduite par le loup. Vous pouvez inventer tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous amuser aussi à recopier. Comme vous avez fait dans le livre, il y en a qui ont recopié des dessins, c'est très bien. C'est comme ça qu'on apprend. Pas décalquer, mais recopier. D'accord ? Quelque chose encore que vous voulez savoir ? Oui ? Quand j'étais petit, je dois avouer honnêtement que j'avais un peu difficile à l'école. Après, je me suis rendu compte comme c'était important parce que ça m'a appris à écrire. Sans ça, j'aurais pas pu écrire des histoires. Et puis, j'avais des amis avec qui je m'entendais bien, mais il y avait beaucoup de gens avec qui je m'entendais pas à l'école. J'étais plutôt un petit peu comme dans le monde à l'envers. J'étais pas très bien intégré. C'est comme ça peut-être que j'ai commencé à dessiner et à inventer un monde imaginaire.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction ? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close, qui donc pouvaient être ces gosses, cette invasion de petites filles ? Que me voulaient ces carabosses qui leur tenaient lieu de famille ? J'ai vite compris à leurs manières, à leurs habits d'un autre temps, que ces visiteurs de mystère étaient sortis de mon roman. Ils jacassent à voix basse dès que j'ouvre mon bouquin. Je délivre de leurs livres des héros ou des vauriens qui surgissent, m'envahissent, se vautrent sur mes coussins, qui s'étalent et déballent d'un jeu sale et chagrin. Ils me choquent, m'interloquent et me parrainent à témoin de leurs vices, leurs malices, de leurs drôles de destin. Mauvais rêve qui s'achève dès que je lis le mot fin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. Depuis, dès que mes yeux se posent entre les lignes, entre les pages, mêmes effets, mêmes causes, je fais surgir les personnages. Pour mon malheur, je lis beaucoup et c'est risqué, je le sais bien. Mes hôtes peuvent aussi être fous, ou dangereux, ou assassins. J'ai fui devant des créatures, repoussé quelques décadents, échappé de peu aux morsures d'un vieux roumain extravagant. J'évite de lire tant qu'à faire les dépravés, les malades, les histoires de serial killers, les œuvres du marquis de Sade. Ils jacassent à voix basse dès que j'ouvre mon bouquin. Je délivre de leurs livres des héros ou des vauriens qui surgissent, m'envahissent, se d'autres sur mes coussins qui s'étalent et déballent, linge sale et chagrin. Ils me choquent, m'interloquent et me prennent à témoin de leur vice, leur malice, de leur drôle de destin. Mauvais rêve qui s'achève dès que je lis le mot fin. Voix basse, il s'efface quand je ferme le bouquin. Voix basse, il s'efface quand je ferme le bouquin. N'importe quoi qui est imprimé me saute aux yeux littéralement. Et l'histoire devient insensée car je ne lis pas que des romans. Ainsi j'ai subi les caprices d'un Apollon de Prospectus. J'ai même rencontré les trois Suisses et le caissier des emprunts russes. Un article du code pénal poilu comme une moisissure s'est comporté comme un vandale se soulageant dans mes chaussures. Ce démon qui vient de filer, ça ne serait pas, je me le demande, un genre de verbe irrégulier sorti d'une grammaire allemande. Cesser de lire pour qu'il cesse de me hanter. Brûler mes livres pour finir dans un glorieux auto-da-fé. Mais j'aime trop comme un opium ce rendez-vous de chaque nuit. Ces mots qui deviennent des hommes, loin de ce monde qui m'ennuie. Malgré les monstres et les bizarres, je me suis fait quelques amis. Alors j'ouvre une page au hasard d'un livre usé que je relis. Puis j'attends, je dois l'avouer, au coin d'un chapitre émouvant, que vienne d'un prince ou d'une fée, un amour comme dans les romans, comme dans les romans. À voix basse, qu'il me fasse oublier tous mes chagrins, qu'il susurre tout murmure des toujours et des demain, qu'il m'embrasse, qu'il m'enlace.
C'était à voix basse de Juliette, extrait de l'album Bijoux et Babioles. Alors pour terminer la rubrique livre, je tenais à vous parler de la parution de Sophie et les petites salades d'Ilia Green, auteure illustratrice qui vit à Marseille et travaille à Marseille et que nous avions reçue dans cette émission en février dernier. Sophie et les petites salades, c'est une nouvelle aventure d'Olga qui propose à ses amis de faire du jardinage et plus particulièrement de planter des salades. Tout le monde se prend au jeu, bien entendu, non pas parce que la fine équipe aime les salades, mais parce que l'expérience vaut bien le coup d'être tentée. Alors c'est l'occasion une fois de plus pour Olga de jouer un peu de son autorité, mais Sophie ne l'entend pas de cette oreille. L'occasion pour elle d'affirmer son indépendance, mais surtout la jalousie la pousse à chaparder la salade de Gabriel. Alors après Histoire de l'œuf, Olga, racheuse de marguerites, Strong Boy et le t-shirt de pouvoir, Sophie et les petites salades confirment la touche d'Ilia Green, vient compléter une petite série insolite que j'aime beaucoup, avec son regard sur l'enfance, son humour et les moues caractéristiques de ses personnages. Vous l'avez compris, un album savoureux, encore une fois, qui se lit sourire en coin, signe de connivence. Sophie et les petites salades vient donc de paraître chez Didier Jeunesse.
Un caillou dans la chaussure.
Nathalie, alors le Festival international du documentaire approche à grands pas. C'est la troisième année, je crois, que Photokino programme un écran parallèle qui s'appelle Les Sentiers, c'est ça? Alors quel genre de film pourra-t-on venir voir?
Bien dans Les Sentiers, c'est donc un écran tout public, dès 6 ans, et on y découvre des films inédits souvent, des films qui n'ont jamais été projetés avant, du monde entier, et par des films d'auteurs avant tout, dont on a apprécié la qualité, et puis qui peuvent être aussi faits par des auteurs plus anciens, des auteurs de référence.
le petit cinéma.
Et oui, au mois de juillet, Photokino et le Phi de Marseille vous invitent dans les salles obscures, même si ça paraît étrange d'aller au cinéma l'été quand tout le monde va sur la plage. Mais attention aux méduses, hein. Et donc, les salles, c'est aussi un moyen d'évasion. Un moyen de s'évader. Et donc, depuis 3 ans, le Phi de Marseille nous invite Photokino à programmer un de ses écrans parallèles. Et chose nouvelle, donc avant, il y a 3 ans, ça n'existait pas. C'est un écran dans lequel les enfants sont aussi invités. Un écran pour tous, y compris les enfants dès 6 ans. Donc, je vais profiter de ce petit cinéma estival pour vous présenter un petit peu plus cet écran. On va d'abord écouter un extrait d'un des films présentés cette année, qui s'appelle One Potato, Two Potatoes. Oh, non, justement, faute d'orthographe. One Potato, Two Potato. Un film anglais de 1957 de Leslie Dakin. Je vous laisse écouter. Voilà, cet extrait de One Potato, Two Potato de Leslie Dakin, c'est donc un des films de cet écran Les Sentiers, un des 16 films programmés cette année. Et donc celui-ci, bon, bah, c'était une façon de rentrer avec des mots d'enfant, puisque c'est un film qui parle des jeux d'enfants, et notamment des comptines de jeux d'enfants. Alors ça se passe en Angleterre dans les années 60, dans un pays un petit peu encore plein de la misère de l'après-guerre. Mais en tout cas, ça permet de partager avec des enfants d'aujourd'hui des jeux anciens. Et c'était aussi la passion de Leslie Deacon, le réalisateur, qui n'a pas fait beaucoup d'autres films, mais en tout cas qui a passé sa vie à consigner, à collecter les jeux d'enfants. Il en a fait des ouvrages de référence. Donc dans ce film, on va voir des enfants sauter. Comment on dit, faire du saut de mouton,
je ne sais pas comment dire. Jouer à saut de mouton.
Voilà, à la marelle, la sauterelle, enfin des jeux, enfin jouer à la bagarre.
Des jeux bien connus, au-delà des frontières d'ailleurs.
C'était avant les jeux électroniques, les ordinateurs, donc ça étonne tout le monde, mais ça existait.
La technique était gratignée au passage.
Donc le nom de cet écran, Les Sentiers, juste c'est important de le dire, on l'a choisi en référence à Arthur Rimbaud. Alors, j'espère ne pas me tromper en citant les premiers vers de son poème « Sensation ». Alors, c'était « Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoter par les blés, fouler l'herbe menue ». Voilà, donc c'est en hommage à ce poème d'Arthur Rimbaud qui avait 16 ans, que nous avons baptisé cet écran, qui voulait aussi être une ouverture un peu sur l'extérieur. Donc, c'est un peu pour ça que je vous disais que parfois dans les salles, on trouve de l'évasion.
Et souvent d'ailleurs.
Oui, souvent. Et c'est un écran qui propose pas que des balades champêtres, hein, qui propose aussi un milieu plus urbain. Donc on va écouter un extrait d'un film polonais, d'un film d'artiste, The New Book.
Dzień dobry. Proszę pana, czy nie ma pan jakiejś nowej, ciekawej, wie pan, książki?
Tak, mam coś.
Ładne.
Mam, proszę.
O, świetnie, proszę pana. Już płacę, dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia panu.
Do widzenia.
Zosiu, no kopelaco, rączki. Świetnie pani wygląda jak zwykle.
No, dziękuję bardzo, komplementer z pana. To pan świetnie wygląda.
Nie, ja, no ja... Ja nie mam czasu, jakby zadbać o siebie należycie. No co sobie po staremu, a co pan? Zosiu, może teraz korzystamy z okazji.
Un caillou dans la chaussure.
Donc, The New Book, un extrait du film de Zbigniew Rybczyński, film polonais de 1975. C'est un film, alors c'est un des films qu'on aime présenter dans cet écran parce que c'est pas vraiment un film fait pour le cinéma, enfin, je ne pense pas, c'est un film fait pour plutôt une installation en art visuel, en galerie. Et Zbigniew Rybczyński est un grand bricoleur d'images. Il aime beaucoup chambouler un petit peu les images, les bricoler. Notamment dans ce film, que j'espère vous aurez l'occasion d'aller voir. Je vais vous donner tout à l'heure toutes les dates pour ne pas les manquer. Dans ce film, c'est un écran séparé en 9 cases que vous allez voir. Vous allez voir 9 cases et sur ces 9 cases, ces 9 écrans, petits écrans, se balade. Notre personnage principal, facilement identifiable parce qu'il est habillé tout en rouge avec un manteau. Et un chapeau, et il se balade d'une case à l'autre, le temps d'aller acheter un livre en ville. Donc il quitte son appartement, il prend le bus, et c'est génial en fait. On aurait aimé vous le présenter en boucle comme dans une installation. Bon là, il faut bien regarder parce qu'on va le montrer qu'une fois. Mais on voit donc les personnages se croiser, les dialogues se mélanger comme on l'a entendu là dans l'extrait. Voilà, donc une curiosité à ne pas manquer. Et les sentiers, c'est l'occasion, oui, comme là vous avez pu le constater, de faire se côtoyer des films très divers et de montrer à des enfants aussi, parce que c'est pas que pour les enfants, encore une fois, mais de montrer à des enfants qu'il y a des images diverses, enfin très différentes de ce qu'ils voient d'habitude sur le petit écran. Il y a quand même une grande, je trouve, homogénéisation des images à la télé. Et puis surtout, on leur montre pas que des dessins animés, même loin de là. Les autres années, on a montré quelques films d'animation dans cet écran. Cette année, on n'a pas trouvé ça... On n'a pas trouvé de film intéressant dans le cadre de cette programmation 2008. Oui, parce que je vais quand même juste vous préciser. Les Sentiers, c'est donc une invitation du film Marseille à Photokino. Et chaque année, il y a des films du film Marseille, c'est-à-dire des films qui espèrent concourir aux écrans, aux écrans en compétition. Et puis qui finalement retiennent l'attention des programmateurs plutôt pour des écrans parallèles. Et nous, on, au sein de Photokino, on reçoit des films donc, du film Marseille et on en choisit certains que l'on va faire cohabiter avec des films plus de patrimoine ou des films de notre cinématographie. Mmh. Et c'est très chouette de faire comme ça, dialoguer des films entre eux, des films qui ne sont pas de la même époque, mais dont les thèmes, dont les techniques peuvent résonner. Voilà. Et cette année, on a déjà écouté deux extraits. Il y a d'autres films anciens, comme un film Zoo de Bert Anstra, qui est un grand réalisateur hollandais, un film de 1962. Très drôle aussi, à vraiment voir en famille, et des films d'auteurs plus contemporains, d'artistes ou de réalisateurs plus contemporains comme Pierre Croton, qui va nous faire lire par Françoise Lebrun un texte de Colette, Les vrilles de la vigne, et puis des films vraiment étonnants comme Perspective atmosphérique, dont vous allez écouter un extrait, un film de Philippe Fernandez de 2008, et qui lui s'adresse pour les plus de 10 ans, et dans lequel les personnages sont vraiment drôles et parlent de sujets existentiels.
Culé, on voit la lune!
Ah ouais? Tu sais d'où elle vient, la lune?
D'où elle vient? Vraiment, elle a toujours été là?
Non, je te dis. En fait, c'est un bout de la Terre. C'était quand le système solaire venait juste de se former. Il y avait encore plein d'astéroïdes qui traversaient l'espace à toute vitesse. Il y en a un super gros qui est rentré dans la Terre. Ça fait plein de morceaux de roches qui se sont envolés. Ils étaient tellement brûlants qu'ils étaient tout liquides. En l'air, ils se sont collés entre eux. Ça a fait une grosse boule. Elle est devenue solide en se refroidissant. Et voilà.
Culé ! Où t'as appris ça, toi ? C'est ta mère qui te l'a dit ? Culé ! Et un jour, la Lune, elle retombera sur la Terre. Et là, ça fait une autre Lune, et ainsi de suite. Et à la fin, il y a plein de Lunes, comme dans ta galaxie. Et ça sera super beau.
À mon tour de poser une devinette. Vous savez ce que voulait dire planétesse, en grec, qui a donné le mot planète ? Ça voulait dire errant.
Alors, comme tu le disais, Marie-Dominique, effectivement, ce sont des films que l'on a réunis un peu sous l'angle des regards d'enfance qu'ils pouvaient porter sur le monde qui nous entoure. Ce ne sont pas des films faits pour les enfants, la plupart du temps, si ce n'est peut-être un film iranien, Life, qui donc, comme beaucoup de films iraniens, est assez pédagogique et permet par des biais documentaires et ludiques d'apprendre des choses à tous, y compris aux enfants. Mais sinon, ces films-là sont avant tout des films que l'on a choisis parce qu'ils sont, outre leur aspect, la qualité de leur contenu, de leur forme, ils nous ont plu, je pense qu'ils plairont aussi aux adultes, mais ils nous ont semblé pouvoir toucher les enfants. Intéresser les enfants. Alors parfois c'est aussi la durée qui en fait des films supportables, même si le sujet peut être un peu grave, mais je veux dire il dure 10 minutes et du coup l'enfant peut peut y picorer ce qu'il veut. Ou alors parfois, bien sûr, il y a des enfants dans ces films aussi. Mm-hmm. Pas toujours, mais parfois. Comme Amomali, un film suisse de Fred Floret de 2007, qui lui, sur un poème de Gerasim Luca, le papa, mm-hmm. c'est quelque chose qui justement nous fait bégayer, et ben, il va nous faire rencontrer des enfants qui bégayent vraiment. Qui vont nous parler de ce petit handicap. Donc c'est un film qu'on a beaucoup aimé, en plus sur cette forme qui mélange poésie et handicap. Et puis un film aussi dont je voulais parler, Flower in the Pocket, un film de Malaisie, donc inédit, qui sur 1h30 quand même, donc pour les plus grands, parce qu'il est en version originale, mais je pense qu'il est tout à fait visible dès 10 ans, nous fait nous balader avec deux enfants, entre la vie scolaire et les sentiers justement de la ville, et voilà, plein d'humour et de surprises visuelles. Enfin, c'est ce genre de film qui nous réveille un peu dans notre regard de cinéphile. Voilà. Et puis peut-être citer, puisqu'on a parlé de Chang au petit cinéma, je vous avais dit qu'on reparlerait de Cooper et Schoedsack, les réalisateurs. Et ben leur tout premier film avant Chang, c'était Grâce. Une aventure épique, puisque les deux réalisateurs ont suivi un peuple en Perse qui a, avec tout son troupeau de bêtes, de moutons, je crois, ne pas me tromper, a traversé des kilomètres et des kilomètres, des milliers de kilomètres pour aller simplement trouver des terres vertes pour nourrir les bêtes. Et on voit ce peuple pieds nus traverser d'un fleuve immense, monter une montagne de 4000 mètres, je crois que je ne me trompe pas, pieds nus dans la neige, et c'est époustouflant, voilà. Donc c'est vraiment un document de 1924 à ne pas rater. Alors oui, tu me demandais, Florence, aussi, si les films étaient rediffusés. Bien, certains non. Donc je vais vous donner les petits détails techniques. Les séances ont lieu à l'Alcazar du 2 au 4 juillet à 14h30. Souvent, ce sont des séances uniques, donc à ne pas rater. Et puis, Grâce, dont je viens de parler, de Schoedsack et Cooper, est lui projeté une seule fois aux variétés le samedi 5 à 18h. Et c'est le cas d'autres films qui ne sont projetés qu'une fois. Donc il faut absolument consulter le programme sur le site de Photokino. photokino.org ou du Film Marseille, filmmarseille.org, et c'est donc du 2 au 7 juillet.
Merci Nathalie, et à très bientôt, donc pendant le Festival international du documentaire à Marseille. Alors comme à l'accoutumée, nous retrouvons Florence Michel avec des propositions spectacles au Festival d'Avignon, plus particulièrement, qui va se dérouler donc du 7 au 25 juillet. Donc
du 9 au 25.
Pardon, excuse-moi, du 9 au 25 juillet. Donc des spectacles auxquels on peut se rendre en famille.
Voilà, c'est un festival qui se dit jeune public et tout public. À partir de 1 an, les spectacles commencent à cet âge-là et jusqu'à ensuite, évidemment, il n'y a pas d'âge. D'autant que la programmation a une orientation assez poétique cette année et je pense que chacun peut y trouver son compte. Alors, la spécificité de ce festival, c'est que chaque jour, donc du 9 au 25 juillet, avec relâche simplement les dimanches, chaque jour, à partir de 9h30, le cycle de spectacle commence et chaque jour, le même cycle recommence dans le même ordre. Donc on peut, si on est sur Avignon plusieurs jours, aller piocher un peu au gré de ses envies, ou bien même s'offrir, pourquoi pas, une journée non-stop de théâtre jeune public ou une matinée. Voilà. Donc, à la carte. C'est donc la 26e édition. Il n'est pas tout jeune, ce festival. Pour cette édition-là, il y a 10 compagnies qui sont invitées, françaises et italiennes. C'est l'orientation italienne là, pour cette fois-ci. C'est une programmation éclectique qui est ouverte à tous les genres. Et là, il y a du mélange dans l'air. Ça mixe les instruments et les images, la danse et les marionnettes, ou encore les ombres et la musique. Et c'est vrai que depuis quelques années là que j'ai eu l'occasion de suivre la programmation de ce festival, il faut remarquer que c'est à chaque fois assez excellent, qu'il y a une exigence dans les choix qui sont faits en région et ailleurs, qui est vraiment intéressante pour le public. Et là, en l'occurrence, je disais qu'il y avait de la poésie dans l'air, mais aussi beaucoup d'originalité. Alors, je ne vais pas parler de chacun des spectacles qui sont programmés. Il y en a donc 10, ça sera un peu long. Mais plutôt attirer l'attention des auditeurs sur quelques-uns d'entre eux parmi les plus alléchants. Alors, dès le matin, à 9h30, donc, levé tôt, il fait frais, les enfants dès 2 ans pourront découvrir Bonheur d'une étoile. C'est un spectacle de la compagnie italienne Teatro all'Improvviso. Alors, une compagnie plutôt expérimentée, elle a presque 30 ans d'existence, du chemin derrière, et qui est dirigée par Dario Moretti. Plutôt onirique, la pièce ne raconte pas d'histoire proprement dite, mais c'est une invitation au regard et à l'écoute. Dans l'obscurité, une harpiste joue, pendant que défilent derrière elle des peintures colorées, qui sont donc projetées à l'arrière de la scène. Alors, pour commencer la journée, c'est un spectacle intimiste, tout en finesse, où les arts s'interpénètrent pour donner naissance à beaucoup d'émotions, et que les enfants probablement vont adorer. Quoi. C'est vraiment tout en délicatesse. Donc ce plaisir à l'italienne aura lieu deux fois dans la journée, à 9h30, et puis ça recommence à 15h45. Voilà, c'est un petit spectacle qui dure 30 minutes, et que Dario Moretti, donc son metteur en scène, a qualifié de concert pictural. Alors, impossible évidemment non plus de ne pas parler ici de A Colori de la compagnie Luna Sol, qui sera jouée à Avignon chaque jour à 10h15. Vous vous en souvenez peut-être, on en a déjà parlé ici dans cette émission il y a quelques mois, alors que Simona Acerbi, donc la metteur en scène, le présentait ici à la Friche La Belle de Mai. On a eu d'ailleurs l'occasion d'aller le voir. C'est une création, encore une fois, pour tout petit des 2 ans. Et moi, que je qualifierais encore une fois d'une immense poésie, c'est l'histoire d'un petit bonhomme tout bleu, il me semble qu'il est bleu, je ne sais pas si mes souvenirs sont bons, qui tombe d'on ne sait où et atterrit dans l'univers des couleurs. Alors, âme sensible, ne pas s'abstenir, le spectacle vous est dédié par petites touches discrètes et mesurées. Avec un style très personnel, Simona touche à l'universel par l'intermédiaire du minuscule. Moi, je m'étais régalée à être assise là, à l'intérieur d'une espèce de manège où tout se fond, le public avec les comédiennes, le charme avec la poésie, le petit bonhomme et les émotions. Alors, avec le spectacle Far West, on passe dans un autre style, un autre ton et également une autre tranche d'âge, puisque celui-ci s'adresse aux enfants à partir de... Enfin, aux enfants, au tout public à partir de 6 ans. C'est une compagnie orléanaise, le théâtre Exobus, qui va venir souffler le vent rafraîchissant de l'océan sur la maison du théâtre pour enfants chaque jour à 14h15. Alors, le spectacle s'appelle Far West, Far, P-H-A-R-E. Alors cette compagnie a la particularité de faire toujours un travail plastique en plus du travail théâtral, et ici ça passe par l'intermédiaire des marionnettes qui sont vraiment super jolies. Il y a une espèce de poulpe ou plutôt une pieuvre, des méduses, enfin dans les verres bleus, et c'est vraiment un joli travail. Et c'est donc l'histoire de deux gardiens de phare qui sont tout seuls dans une énorme tempête et qui commencent à être pris par la faim. Et pour seule réserve, il leur reste un petit poids. Mais à leur grand désespoir, celui-ci s'échappe par la fenêtre, donc plus rien à manger. Et il y en a un qui se dit qu'il n'y a plus qu'une chose à faire, il se jette à la... lui également par la fenêtre, à la quête du petit pois. Donc c'est ce Justin-là qui part donc à la poursuite du petit pois et qui arrive à la découverte du monde sous-marin où l'attend un monde qu'évidemment il ne connaît pas encore. Donc c'est un spectacle à recommander aux amateurs de belles marionnettes marines et puis, il faut bien le dire, d'humour assez croquant. Alors, pour terminer là sur la présentation des spectacles, je voulais noter également un spectacle renversant de la compagnie, mais vous allez voir pourquoi, de la compagnie Anamorphose. Donc, ce spectacle se joue à 10h et 16h30. Vous pouvez y aller deux fois, donc ne pas le rater. C'est une compagnie de Rayanne dans le 04, donc pas très loin d'ici, et qui a pour titre « J'ai marché sur le ciel ». C'est Dixit, les créateurs, un théâtre d'ombre et de transparence qui a la particularité de se découvrir allongé. Alors la tête bien calée sur un oreiller, ça ne sera pas tout à fait l'heure de la sieste. Les spectateurs regardent un écran au plafond. Alors c'est sûr qu'on doit perdre un peu ses repères, mais c'est l'occasion de se laisser partir littéralement dans un monde onirique, bercé en plus par la musique. Enfin moi je j'en ai déjà envie.
Je réserve une place. Aussi.
Alors juste pour le plaisir, je vous lis ces quelques lignes. Un enfant dort au plafond, les pieds au chaud dans les nuages, il dort et tout s'envole. Pluie de poissons, nuages moutons, grenouilles volantes et vaches ailées, arc-en-ciel sous la lune, ville aquatique, empreinte dans le ciel, un train tourbillonne jusqu'au bout du rêve. Voilà, c'était un petit aperçu de ce qui sera visible à la Maison du Théâtre pour enfants, avenue Montclar à Avignon, donc du 9 au 25 juillet. Les places sont de 5,50 € par enfant et 8,50 € par adulte. C'est donc un centre social socioculturel qui anime ça, qui se trouve à 5 minutes à pied derrière la gare. C'était là une sélection, il y a d'autres spectacles à découvrir. Vous pouvez aller sur le site du festival sur www.festivaltheatreenfant.com. Donc Festival Théâtre Enfant tout attaché en éludant le E final de théâtre. Donc je vous disais que d'autres spectacles auront lieu et notamment, nouveauté de cette année, du conte. Des contes agro-pastoraux et musicaux par un conteur musicien italien, Luigi Rignanese, et également Leila Darwish avec Tap Tap le loup, ou encore Fin de loup par Pierre Deschamps de la compagnie La Grande Ours. Bon, évidemment, je vais peut-être m'arrêter là, on n'en finirait pas. Je vais juste terminer en signalant les animations satellites, parce que dans ce festival, on vient donc assister à un spectacle et après, systématiquement, il y a un apéro sirop offert aux enfants. J'aime bien déjà le nom, mais l'idée, c'est de mettre en contact les comédiens avec les enfants. Et donc, il y a chaque fois une rencontre prévue comme ça autour du spectacle où les enfants peuvent poser des questions, enfin parents également, et puis voir un petit peu les deux sous de l'affaire, quoi, voilà. Oui, il y a toujours un recueil, un échange entre le public et les comédiens. Et en plus de ça, bon, à chaque fois, il faut payer, je ne sais plus, 2 ou 3 € pour d'autres petites animations. Il y a deux petites expos, là, qui sont des expositions, mais interactives, animées, qui permettent de rester un peu dans les parages du théâtre aussi après les représentations et après donc l'apéro sirop. Donc il s'agit d'abord des jeux musicaux d'Étienne Favre. Ça fait plusieurs années que l'exposition est présente en parallèle du festival. C'est une espèce de parcours sonore avec des instruments géants, des boules musicales, des clochettes, enfin toutes sortes de choses, où les enfants là sont laissés en liberté à la découverte des sons. Et puis également donc cette année, le Jardin des Sens de la compagnie marseillaise Itinérance, oui, présente sur le festival avec du début à la fin, petite histoire colorée et dansée. J'en ai J'en parle pas beaucoup plus longtemps parce que on en reparlera forcément l'année prochaine de cette compagnie qui travaille beaucoup.
C'est un spectacle qui est adapté d'un livre de Pierre Delis qui s'appelle La grosse fin de Petit Bonhomme aux éditions Didier Jeunesse.
Où la fin le mène très loin, lui aussi. Exactement. La fin, ça mène à suivre les petits points, puis à faire tout un tas de trucs.
C'est sous forme de conte, en fait. Il y a une espèce de ritournelle, une espèce de mouvement comme ça, au fil des pages, qui revient. Donc je suis curieuse, moi, de voir ce que ça peut donner, justement, sur scène.
Ouais. Mm-hmm.
La question du rythme du livre, comment est-ce qu'elle a été traduite sur scène?
Alors, pour terminer, juste dire que les petites interventions musicales, là, sont extraites du CD de Pascal Ayer de Gribouilly, un disque tout enregistré à partir de petits instruments qui n'en sont pas, passoires et autres frottoirs. Donc, un album gribouillé, débarbouillé et mouliné par Pascal Ayerbe. Juste enfin pour terminer, sur le Festival d'Avignon, le numéro de téléphone pour d'éventuelles réservations, c'est au 04 90 85 59 55. Bon été.
Merci Florence, et je crois qu'on va manquer de temps parce que les festivals, il y en a beaucoup ici à Marseille, en région, mais je crois que Nathalie, tu voulais au moins attirer l'attention sur le cinéma en plein air. Et puis,
voilà, parce que j'ai parlé des salles obscures, mais bien sûr l'été c'est l'occasion d'aller se coucher dans l'herbe et regarder des films sur la toile. Tendu dans des parcs, par exemple, ou sur des places publiques. Alors, il y a le cinéma en plein air, organisé par Tilt. La programmation, on la trouve partout. Et puis, la pépinière d'images de Sylvie Frémiot, que vous retrouvez sur le super petit festival Caresser le potager.
Et c'est où, Caresser le potager?
Ah, c'est au parc de la Mirabelle, dans le 12e. Et il y a un truc bien cette année, c'est que le tramway emmène direct là-bas.
Parfait.
Parfait. Et c'est ainsi, merci. Donc, c'est ainsi que se termine cette émission. Merci à Florence Michel et Nathalie Guimard pour cette première année de collaboration. Merci aux auteurs et artistes de nous avoir fait confiance. Merci pour les soutiens en coulisses et les encouragements. Merci aux collaborations insoupçonnées. Par exemple, la sélection musicale a été très fortement influencée par les compiles de Raymond Romano, bibliothécaire et musicien, merci à lui. Merci à l'équipe de la rédaction de Radio Grenouille d'avoir accueilli la création de cette émission à bras ouverts. Et merci à l'homme de l'ombre qui nous guide, nous écoute, les lancers, Sébastien Gély à la technique. Vous pouvez réécouter les émissions sur le site de la Grenouille à la page « Un caillou dans la chaussure ». Très bon été et rendez-vous à la rentrée, mercredi 24 septembre. Et à tous ceux qui nous écoutent, bonnes vacances. Au revoir.